Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'une amie de longue date. Je n'avais pas eu de nouvelles depuis un bon moment. Une amie qui, depuis plusieurs années, passait par des temps assez difficiles. Il y avait eu des problèmes familiaux, un licenciement économique, des déceptions sentimentales également, la difficulté, dont elle parlait assez librement, de vivre le célibat. Ça faisait beaucoup, des années assez difficiles pour elle. Et puis tout d'un coup, il y a quelques semaines, je reçois ce message de sa part, dans lequel elle m'annonce, d'une part, qu'elle avait rencontré un homme chrétien engagé dans sa foi, qu'il l'aimait, qu'il l'avait demandé en mariage. Par ailleurs, elle avait trouvé en quelque sorte le travail de ses rêves, quelque chose qu'elle n'imaginait même pas, bien meilleur que celui qu'elle avait perdu, et qui en plus impliquait des déplacements dans la ville lointaine où habitent ses parents, qu'elle voyait rarement. Donc vraiment, quelque chose qui allait au-delà de toutes ses espérances. C'est comme si, après toutes ces années difficiles, elle croulait en quelque sorte sous les bénédictions. Et voici ce qu'elle écrivait dans son message. Parfois, je vais dans ma chambre et je pleure de joie. Tout ceci est encore meilleur que ce que j'aurais pu demander ou imaginer. Une petite allusion biblique là dans cette citation. Alors on peut entendre cette histoire, bien sûr, et se dire, tant mieux pour elle, mais les choses ne se passent pas toujours comme ça, et c'est vrai. Toutes les histoires sont différentes. Mais j'évoque cette histoire parce qu'elle, à petite échelle, elle évoque pour moi la magnifique surprise qu'est la bonne nouvelle, qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Une bonne nouvelle au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, et bien plus encore que dans l'exemple que j'ai donné. La bonté, la grâce de Dieu qui viennent nous surprendre alors que nous en avions désespérément besoin, comme un torrent de bénédictions qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Et c'est cette bonne nouvelle dont l'apôtre Paul parle depuis le début de sa lettre aux Romains. Alors ça remonte maintenant, mais avant l'été, nous avions étudié à plusieurs reprises la lettre aux Romains. Au chapitre 1 à 4 que nous avons vu avant l'été, alors le soir ça a été vraiment l'ensemble des chapitres 1 à 4, le matin des extraits, mais dans ces chapitres, l'apôtre Paul prend le temps d'expliquer ce qu'est la bonne nouvelle précisément, ce que c'est que cet évangile et pourquoi nous en avons tant besoin. Et après ces quatre premiers chapitres où l'apôtre Paul expose en quelque sorte de manière approfondie ce que veut dire cet évangile, eh bien chapitre 5, que nous allons aborder dans un instant, l'apôtre Paul commence à passer en quelque sorte à la pratique, en tout cas à ce que veut dire cet évangile pour nous au quotidien. Qu'est-ce que l'évangile change dans la vie? En quoi est-ce que nous pouvons, en quoi est-ce que cet évangile change tout pour nous? Et donc c'est là que nous nous retrouvons ce matin, au début du chapitre 5. Dans les Bibles bleues, c'est à la page 1271. Page 1271. Et je vais donc lire Romains chapitre 5, les versets 1 à 11. Et puis ce soir, c'est le début du chapitre 6 que nous verrons, si certains veulent revenir. Romains 5, 1 à 11. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Jusqu'ici la lecture de la parole. Alors que nous examinons ce texte, je vous propose de nous poser cette question en filigrane. Comment savoir que Dieu nous aimera toujours? Comment savoir que Dieu ne changera pas un jour d'avis et décidera, déçu par nous, déçu par notre manière de vivre, de nous oublier? Comment le savoir? Et je vous invite à réfléchir à ce texte en deux temps. D'abord, une incroyable déclaration d'amour, ce sont les versets 1 à 5. Une incroyable déclaration d'amour, et ensuite une implacable démonstration d'amour, les versets 6 à 11. Une incroyable déclaration d'amour. Le chapitre 5 commence par un résumé, en quelque sorte, de l'Évangile, dans des termes tout à fait saisissants. Verset 1. « Ainsi donc, déclaré juste, sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix avec Dieu. Qu'est-ce que c'est la paix avec Dieu? Il faut bien comprendre ici que Paul ne parle pas seulement d'un sentiment de paix. On confond souvent la paix et le sentiment de la paix. Lorsque nous disons par exemple qu'il y a la paix aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, on ne parle pas en premier lieu d'un sentiment de paix. Tant mieux s'il y a un sentiment de paix entre les deux nations, je crois que c'est essentiellement le cas. Mais on parle d'une réalité concrète. L'absence de conflits, la présence de relations diplomatiques, de relations économiques, d'échanges culturels, etc. Il y a une paix objective entre la France et l'Allemagne, et pas seulement un ressenti de paix. En général, quand il y a une paix objective, eh bien, il y a aussi un ressenti de paix. Mais il ne faut quand même pas confondre les deux. Eh bien, l'apôtre Paul, ici aussi, parle d'une paix objective, et pas seulement d'un sentiment. La relation avec Dieu, qui était si gravement affectée par le péché de l'homme, comme l'apôtre Paul a passé pas mal de temps à montrer dans le début de sa lettre, eh bien c'est désormais une relation de paix. Il n'y a plus de conflit entre Dieu et nous. C'est ça que ça veut dire la paix avec Dieu. Or, si nous avons la paix avec Dieu, c'est parce que, verset 1, nous sommes déclarés justes. Prendre la traduction traditionnelle, justifiés. Dieu ne nous voit plus comme des coupables à ses yeux, mais comme des justes. Et cela non parce que nous aurions mérité d'être considérés ainsi, mais, écrit Paul, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes déclarés justes. Et on verra un petit peu plus loin ce que dans ce texte Paul entend par là. Il convient d'ajouter que dans la Bible, d'un point de vue général, la paix, c'est plus que simplement l'absence de conflit. C'est la présence du bonheur, de l'abondance, de la satisfaction des besoins de chacun. Et donc, par ces quelques mots, l'apôtre Paul nous dit que l'homme pécheur, perdu loin de Dieu, ayant désespérément besoin de retrouver son Créateur, non seulement n'est plus en conflit avec Dieu, mais peut être auprès de lui comblé, trouver une relation comblée avec son Créateur. Mais Paul ne s'arrête pas là. Et dans les versets qui suivent, il va passer en quelque sorte d'émerveillement en émerveillement. J'imagine que vous avez déjà vu, au moins, enfin, pas mal d'entre nous, nous avons déjà vu cette émission à la télévision, j'ai oublié le nom d'ailleurs, où une équipe retape une maison complètement délabrée qui appartient à une famille en difficulté. Et à la fin de l'émission, la famille découvre sa maison entièrement transformée. Et là, alors ça fait pleurer dans les chaumières, la famille s'émerveille, pleure de joie. Je blague, mais c'est quand même un moment émouvant, parce qu'ils voient pièce après pièce entièrement transformée. La salle de bain, la chambre des enfants, le salon, entièrement transformé, méconnaissable. Eh bien ici, c'est un petit peu comme si l'apôtre Paul nous emmenait de pièce en pièce. Il veut nous montrer toutes les différentes facettes de l'Évangile. Et c'est comme s'il s'émerveille en nous montrant un aspect après l'autre. Alors, ce texte n'est pas exhaustif, il ne montre pas tous les aspects ici, loin s'en faut, mais il nous en montre plusieurs. Et après avoir parlé de la paix avec Dieu, voyons comment il poursuit au verset 2. « Nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. » La grâce de Dieu, cette faveur imméritée qu'il nous accorde et par laquelle notamment il choisit de nous pardonner. Mais ici, on voit que la grâce, ce n'est pas seulement quelque chose qui intervient à un moment de notre parcours, le jour où Dieu, où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et Dieu nous déclare juste à ses yeux, c'est capital. Mais la grâce est quelque chose de quotidien, c'est une réalité présente. Cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, Ce n'est pas une intervention unique au jour de notre conversion. Ce n'est pas non plus la grâce, juste une bouée de sauvetage à laquelle on s'accroche dans les situations de crise extrême. Mais le reste du temps, ça va. Au quotidien, Dieu prend soin de nous, nous accepte malgré nous et nous fait du bien. Et puis Paul poursuit encore à la fin du verset 2. Il passe à la pièce suivante, pour reprendre l'image. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et ici, l'apôtre oriente notre regard vers l'avenir. La gloire de Dieu dans la Bible, ça peut avoir, selon les contextes, renvoyé à des réalités un petit peu différentes, mais dans de nombreux textes, et notamment dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu est associée à la nouvelle création, au nouveau monde que nous attendons, dans lequel nous ferons l'expérience directe de la présence, de la puissance et de la beauté de Dieu. Parmi bien d'autres textes, on peut citer le prophète Habacuc, qui a été cité notamment lorsque le projet Paris-Saint-Lazare nous a été présenté. Habacuc 2,14, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » La création entière, la terre entière sera remplie de la gloire de l'Éternel et de la connaissance de cette gloire. Donc, quand Paul écrit, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, il dit que ce qui motive sa vie au quotidien, et ce qui doit motiver la nôtre, c'est l'attente de ce jour où nous serons comblés par la présence de Dieu dans un monde entièrement transformé et guéri. J'espère que nous aspirons profondément à ce monde transformé et guéri. Dieu sait qu'il en a besoin. Et c'est l'occasion pour nous de nous demander si nous partageons vraiment cette espérance. Est-ce que notre espérance chrétienne est finalement, alors oui, il y a une vague croyance en un au-delà un peu indéfinissable, mais en réalité, toute notre attention est focalisée sur le monde présent. Et mon espérance, c'est ce que je vis aujourd'hui. Ou bien est-ce que ma vie dans le monde présent, importante aux yeux de Dieu, bien sûr, est-ce que cette vie d'aujourd'hui est portée par la conviction que Jésus-Christ sera un jour reconnu dans le monde entier comme Sauveur et Seigneur et qui nous appelle dès aujourd'hui à annoncer, préparer ce grand jour? Plus nous prenons au sérieux les promesses de Dieu pour l'avenir, plus notre vie sera centrée sur Jésus, plus nous découvrirons la joie et la paix de la vie avec Dieu. Donc on a vu que l'apôtre Paul passe d'émerveillement en émerveillement. Paix avec Dieu, grâce au quotidien, l'espérance d'un avenir glorieux. Mais là, quelqu'un pourrait objecter, j'entends ce que tu nous dis, cher apôtre Paul, mais quel décalage quand même avec le quotidien. C'est bien joli hein, de parler comme ça, l'espérance de la gloire, etc. Mais en attendant, la vie est dure. Et bien, l'apôtre Paul le savait bien, que la vie est dure. Hein. Persécuté, emprisonné, battu, rejeté par la plupart de ses compatriotes. Paul savait très bien que la vie est dure. Et c'est pour ça, je pense, qu'il anticipe immédiatement l'objection d'une vision trop éloignée du réel au verset 3. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Donc Paul ne minimise pas la souffrance. Ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on est réconcilié à Dieu par Jésus-Christ, cela devrait changer notre regard sur nos circonstances. Le présent est parfois difficile, voire très difficile, mais il nous emmène, en Jésus-Christ, vers un avenir certain. Une personne de cette église me disait récemment qu'elle avait pris un vol Paris-New York qui passait par Moscou. Voilà, il y avait un prix sur ce vol. Et c'était un voyage qui la réjouissait beaucoup pour aller retrouver des personnes chères. Mais il fallait suivre cet itinéraire complètement invraisemblable. Alors, passer par Moscou pour aller à New York, ça semble être du temps perdu. Et c'est un voyage épuisant, du coup. Et quand on est dans le premier vol Paris-Moscou, on peut se dire, mais en fait, je suis en train de m'éloigner de plus en plus de là où je veux aller. Mais en réalité, même en volant vers Moscou, cette amie pouvait se dire qu'elle était en train d'aller retrouver ses proches à New York. Le voyage était long, difficile, et prenait un gros détour, mais la destination restait la même. L'image vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que c'est un peu ce que Paul veut nous dire lorsqu'il parle des détresses ici. Il affirme que nous pouvons être fiers même de ces détresses, parce que même si le chemin est dur, il nous emmène toujours vers ce que nous attendons de tout notre cœur, la vie éternelle et surabondante que Dieu nous promet. Mais Paul dit plus que cela dans ce texte. Il dit que Dieu sait utiliser nos épreuves, aussi dures soient-elles, pour nous rapprocher de lui, pour renforcer notre confiance en lui, notre persévérance et en définitive notre espérance. C'est ce qu'il explique au verset 3 et 4. Plus on persévère dans l'épreuve, plus on s'appuie sur Dieu, plus on apprend à le connaître, plus notre espérance et notre joie de vivre avec lui grandiront. Et j'imagine que beaucoup ici pourraient témoigner en ce sens, que c'est souvent dans l'épreuve dure, qu'il ne s'agit absolument pas de minimiser, mais qu'ils ont appris à connaître Dieu d'une manière approfondie, renouvelée. Mais là encore, quelqu'un pourrait objecter. C'est bien joli de vivre dans l'espérance, mais comment savoir que cette espérance est fiable? Et notamment la question que Paul pose dans ce texte, c'est comment savoir, ou à laquelle il répond, disons, comment savoir que Dieu continuera de nous aimer? Comment peut-on vraiment avoir cette assurance de l'amour de Dieu? Est-ce que nous ne prenons pas le risque de tomber dans l'illusion? Et c'est là que Paul évoque pour la première fois dans ce texte un mot qui est dans un sens un mot-clé pour comprendre l'ensemble du texte, l'idée centrale du texte. Verset 5, « Cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Pourquoi est-ce que Dieu a fait la paix avec nous? Pourquoi est-ce qu'au quotidien, il nous donne les ressources de grâce pour nous aider à tenir? Pourquoi est-ce qu'il nous donne une espérance certaine? Pourquoi est-ce qu'il nous adresse des promesses magnifiques? Réponse, parce qu'il nous aime d'un amour puissant et incomparable. Or, cet amour, nous dit Paul, est déversé dans notre cœur. L'image est forte. Déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Paul dit juste quelques mots ici d'une idée qu'il approfondira un peu plus tard dans sa lettre, au chapitre 8. Alors même que nous vivons dans ce monde présent, soumis à la souffrance et au péché, Dieu nous permet de vivre avec lui au quotidien, par son esprit, une relation intime de confiance et d'amour. Dès aujourd'hui, nous vivons de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Il nous donne cet amour au quotidien. Et donc, nous pouvons avoir l'assurance, parce que nous vivons déjà cet amour, nous pouvons avoir l'assurance que notre espérance n'est pas trompeuse. Paul pourrait s'arrêter là dans un sens, mais il va aller plus loin et nous montrer comment Dieu a prouvé concrètement cet amour. C'est notre deuxième point, une implacable démonstration d'amour. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul écrit les versets 6 à 11? Je l'ai dit il y a un instant, il aurait pu dans un sens s'arrêter au verset 5. Dire voilà, Dieu nous aime et nous le savons parce qu'il nous a donné son esprit par lequel nous vivons quotidiennement de cet amour. C'est déjà extraordinaire. Mais au verset 6 à 11, Paul va nous montrer comment Dieu a prouvé objectivement, de manière incontestable, la réalité de cet amour. Et pour ce faire, il va revenir au cœur de la bonne nouvelle. Verset 6. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Il y a plein de choses très importantes dans ce verset. D'abord, Dieu est intervenu alors que nous étions sans force. Sans force. 100% Dieu, 0% nous. Ce n'est pas nous qui avons réussi à attirer son attention. Hey « Hé Dieu, regarde comment je vis !» Non, nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes qui vivent une vie qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et pourtant, verset 6, Christ est mort pour ses pécheurs. Sur la croix, et on l'a déjà rappelé plus tôt dans ce culte, Jésus a subi à notre place le jugement de Dieu contre nos péchés. Il a satisfait la justice divine et ainsi nous sommes déclarés justes, verset 1, acquittés grâce à lui, sans le moindre mérite de notre part. Maintenant, voyons comment l'apôtre poursuit. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Un soldat particulièrement courageux pourrait accepter de mourir pour ses compagnons, cela arrive. Un père ou une mère pourrait accepter de mourir pour ses enfants, un conjoint pour son conjoint, un ami pour son ami. On peut aussi penser à ces actes héroïques dans le contexte du terrorisme, par exemple. Lors des attentats de Beyrouth en novembre dernier, ce qui était une semaine avant ceux de Paris, un homme, Adel Termos, s'est jeté au prix de sa vie sur un kamikaze qui s'apprêtait à rentrer dans une mosquée bondée avec 200 personnes à l'intérieur. On peut penser aux héros du Thalys qui, heureusement, ont survécu. Il arrive que des hommes, des femmes, soient prêts à sacrifier leur vie pour d'autres. Mais Paul poursuit, verset 8. « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et au verset 10, il utilise un terme encore plus fort, en tout cas à notre oreille, encore plus fort. « Nous étions ses ennemis. » Mourir pour des gens qui nous sont chers ou qu'on estime innocents, c'est concevable, c'est quand même très difficile, je ne sais pas si on le ferait dans la situation, mais c'est concevable. Mais qui pourrait mourir pour son ennemi? Et on ne parle pas ici d'un ancien ennemi, mais d'un ennemi actuel. Christ est mort pour ses ennemis, qui étaient ses ennemis à ce moment-là. Serions-nous prêts à donner notre vie pour sauver celle de Salah Abdeslam, Mohamed Lawayesh Boulel, le tueur de Nice? Ou pour prendre un exemple peut-être un peu moins éloigné de notre quotidien, pensez à quelqu'un qui vous a fait du mal, d'une manière ou d'une autre, pas la peine que ça soit aussi extrême, quelqu'un qui vous a fait du mal. Pardonner, peut-être, mourir pour cette personne, surtout si elle continue à vous faire du mal. Serions-nous prêts à cela? Jésus-Christ est mort pour nous lorsque nous étions ses ennemis. Nous ne l'aimions pas. Nous voulions être nos propres maîtres. Nous estimions n'avoir aucun besoin de notre Créateur. Ça ne veut pas dire qu'on vivait tous dans des transgressions terribles aux yeux des hommes. Sans doute pour beaucoup d'entre nous, pas plus que ça. Mais fondamentalement, de diverses manières, nous avons tous à un moment, avant de nous tourner vers Jésus-Christ, si c'est le cas, méprisé Dieu et voulu être notre propre Dieu, nos propres maîtres. Et ce faisant, nous avons tous contribué à notre échelle, à notre manière, au mal qui sévit dans le monde. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul insiste tant sur le fait que Christ est mort pour nous alors que nous étions ses ennemis? Eh bien là, l'apôtre fait appel à un argument logique. L'apôtre Paul était un grand sentimental, on le voit par ailleurs, mais ça n'empêche pas qu'il aimait la logique. Et ici, il fait appel à une logique implacable et infiniment précieuse pour nous. Verset 9. « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Comprenons bien l'argument. Si, alors que nous étions coupables à ses yeux, il nous aimait déjà suffisamment pour mourir pour nous, comment imaginer que maintenant qu'il nous considère comme des justes, il nous laisse tomber? Alors que nous étions sans force des pécheurs qui le rejetaient, Dieu n'a pas hésité à payer le prix suprême en envoyant son fils Jésus pour mourir, pour nous sauver. Et maintenant que nous sommes ses enfants réconciliés et adoptés, il changerait d'avis? Ça n'a aucun sens. Et Paul en remet une couche au verset 10. « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Si Dieu nous aimait quand on était ses ennemis, ce n'est pas maintenant que nous sommes ses amis qu'il va changer d'avis et cesser de nous aimer. Est-ce qu'on saisit bien l'assurance saisissante qui vient de la logique de Paul ici? Notre espérance n'est pas trompeuse, c'est à cette question que Paul répond. Est-ce que notre espérance est trompeuse? Verset 5. Notre espérance n'est pas trompeuse parce que le Dieu qui était prêt à tout donner pour nous alors que nous étions ses ennemis ne cessera pas de nous aimer maintenant que nous sommes ses enfants. Et si on regarde bien le verset 10, l'argument va même un peu plus loin. Il dit « Si la mort de Jésus était suffisante pour réconcilier des pécheurs avec Dieu, alors a fortiori la vie nouvelle de Jésus sera suffisante pour nous maintenir en paix avec Dieu pour toujours. » Et c'est pour ça que, pour Paul, nous pouvons, verset 11, placer notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons, autrement dit, revendiquer son amour comme une certitude et y trouver toute notre joie et notre fierté. Et ce n'est pas une fierté présomptueuse. Justement, Paul vient amplement de nous montrer que nous n'avons pas mérité cet amour. Nous étions ses ennemis, mais il m'a aimé malgré cela, et cela me donne l'assurance que son amour est éternel et inconditionnel. Qu'est-ce qui se passerait si nous étions profondément et intimement convaincu que Dieu nous aime d'un amour éternel et puissant? et que rien ni personne, je paraphrase le chapitre 8 qui viendra, ne pourra nous séparer de cet amour. Pas seulement intellectuellement convaincu de ça, c'est important. S'il n'y a pas de conviction intellectuelle, il ne peut pas y en avoir d'émotionnel. Mais profondément rempli de cette assurance. Peut-être que ça pourrait nous libérer définitivement, par exemple, de la crainte du regard des autres. Si je sais que le créateur de l'univers m'aime pour toujours de façon inconditionnelle, peut-être pas très important si je fais face à telle vexation ou remarque désagréable, voire pire. Ou du besoin de prouver notre valeur. Si le Dieu éternel m'aime pour toujours et a été prêt à donner son fils pour moi, peut-être que je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. Il n'y a pas de validation plus forte que celle-là. Et si ça nous libérait du sentiment de frustration et de déception lorsque la vie n'est pas celle que nous avions imaginée? Et je dis ça sans la moindre légèreté. Mais si vraiment nous étions profondément convaincus que quoi qu'il arrive, nous sommes aimés d'un amour éternel, surpuissant, inconditionnel. Et si ça nous libérait de la crainte de perdre la faveur de Dieu? Qu'est-ce que ça changerait donc dans notre vie de tous les jours si nous étions vraiment, profondément convaincus de cet amour, si nous prenons vraiment au sérieux cette logique implacable de l'apôtre Paul ici? Ce matin, j'espère que pour vous comme pour moi, ce rappel que nous donne l'apôtre de l'amour stupéfiant de Dieu, révélé en Jésus-Christ, nous amènera, s'il le faut encore, et généralement il le faut, à changer de regard sur la vie. Revenir à l'essentiel, investir dans l'éternel plutôt que l'éphémère. Trouver notre fierté et notre espérance de chaque jour, non pas dans nos accomplissements, nos projets personnels, qui peuvent être très bons, mais ne pas trouver notre identité et notre fierté là, ni dans le regard des autres, mais en Jésus-Christ qui nous invite à connaître son amour et à en être comblés pour toujours. Et j'espère que ceux parmi nous ce matin qui n'ont pas encore répondu à la foi en Jésus-Christ se laisseront, comme disait Calvin, laisseront leur cœur dompter par l'amour de Dieu, par un tel amour. Amen.